Je regarde s'ils sont présents et je les fais bouger pour voir s'ils sont bien vivants.
Vous allez rencontrer des psychiatres, des psychologues. Vous serez observés en permanence. Les surveillants participent à l'observation. Vous allez rencontrer des psychiatres.
Bon, messieurs, distribution des couteaux.
Le rôle de l'administration pénitentiaire s'est écrasé. Humilié. Déshumanisé.
200 000 francs la télé.
Un matin.
Dans les cours de promenade.
Salut, bonjour.
Salut.
Vous êtes à l'écoute de Radio Duo 89.5 FM à Saint-Étienne. C'est l'émission Papillon qui commence comme tous les premiers dimanches du mois de 17h30 à 19h. Donc, bien le bonjour, bien le bonsoir à tout le monde, notamment aux gens qui nous écoutent depuis la maison d'arrêt de la Talaudière. Voilà, là on est en direct, on est le dimanche 6 mars 2011. Alors aujourd'hui dans cette émission, donc je rappelle quand même, si, je voulais rappeler vite fait, Papillon c'est une émission contre les prisons et contre l'enfermement qui se propose de débattre de tout ça et de donner aussi une large partie à la parole des prisonniers, prisonnières, ex-tôlards et de leurs proches eux-mêmes parce qu'on pense que c'est quand même les mieux placés pour en parler. Voilà, et je me permettrai de rappeler une micro-citation du CAP, dont on a parlé récemment, Comité d'Action des Prisonniers des années 70, qui disait « La prison pour personne ». Voilà, donc je trouvais que c'était une belle phrase pour introduire notre émission d'aujourd'hui. Aujourd'hui, de quoi est-ce qu'on va parler? On va d'abord revenir sur les mutineries ou mouvements qui ont eu lieu très récemment à la maison d'arrêt du Val-d'Oise, à Osny. Ou Osny. Alors, on a eu un grand débat pour savoir s'il fallait dire Osny ou Osny. Et plus proche de nous, à la maison d'arrêt, enfin au centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier, côté maison d'arrêt. Ensuite, on reparlera, on en avait parlé très brièvement lors de la dernière émission, on reparlera des murets de séparation dans les parloirs et des parloirs de manière plus générale et de choses qui donnent envie de râler. Ensuite, on aura une interview de la caisse, enfin de Nico, de la caisse de solidarité de Lyon. On racontera un peu ce que c'est que cette caisse, comment elle marche et pourquoi, comment. Et enfin, on va vous lire trois lettres qui ont été envoyées par Bayoup, la lumière rouge est éteinte.
Non, mais c'est bon normalement.
Ouais, d'accord. On va vous lire trois lettres qui ont été envoyées par Omar à L'Envolée, l'émission de radio de Paris. Et on avait envie de vous les lire parce qu'elles nous ont secouées. Et puis on en parlera un petit peu, donc ça sera à la fin de l'émission. Voilà, donc c'est parti tout de suite.
Une émission qui parle de lutte.
Ouais, on est là pour ça. J'avais oublié de préciser au début quand même. Le but, c'est quand même d'essayer de contribuer à niquer la tôle, quoi. Donc allons-y. Donc les mutineries.
Ouais. À la maison d'arrêt d'Osny. courant début février, donc aux alentours du 10 février, il y a eu un mouvement dans cette maison d'arrêt, donc qui est située dans le Val d'Oise. Ça serait parti de vagues histoires de ballons de football. Enfin, l'embrouille venait de là. Enfin, à ce qui paraît, hein, ça c'était encore une version de médias. Et donc, en fait, il y aurait eu des embrouilles avec des matons. Et le soir, les matons, ce serait... Enfin, il y a eu des embrouilles, les uns se sont vengés contre les autres, etc. Et donc, suite à ça, il y a eu des transferts. Il y a eu 5 personnes qui ont été transférées. Mais sauf que dans la foulée, le mouvement de protestation a été suivi par les autres prisonniers. Et ça a duré sur plusieurs jours et ça a rassemblé environ 200 personnes à l'intérieur, quoi. Ces personnes, elles vont passer en procès le 14 mars. Enfin, déjà pour les cinq premiers qui ont été transférés. Après, pour ce qui est des autres, ce qu'on a entendu, c'est qu'il y a des personnes qui sont allées récupérer un peu des infos comme ça au parloir. C'est qu'il y a eu environ une quarantaine de transferts dans d'autres prisons un peu partout en France. Nous, on s'était un peu renseigné pour voir si à l'Atalo il y en avait ou pas, mais vraisemblablement non, il n'y avait pas de personnes qui étaient impliquées dans ce mouvement, sans quoi on aurait essayé de se mettre en contact avec eux et pour apporter un soutien et faire sortir toutes ces infos qui tentent aussi de rétablir un peu la vérité par rapport aux médias. Et donc, ce qui est important, c'est que est-ce qu'on dira avec 50 ans, on va faire le lien, c'est que là, ça a eu lieu cette révolte, elle a eu lieu dans une maison d'arrêt, en fait, alors que dans les luttes, de manière générale, les maisons d'arrêt sont réputées plutôt tranquilles, alors ce qui est, je dirais, un peu faux quand même, de manière évidente. Et donc, je ne sais pas si mes copains là, veulent rajouter autre chose sur Osni ou Osni.
Ouais, peut-être un petit truc. Je crois que pour la première fois dans cette révolte qu'il y a eu là-bas, il y a des grillages qui ont été... Parce qu'en fait, c'était un blocage de promenade, je crois. Et qu'il y a des grillages qui ont été défoncés, ce qui a permis à différentes promenades de se mettre ensemble et de rester... et de bloquer ensemble la promenade. Et donc, du coup, de lutter contre cet effet de séparation que met en place l'administration pénitentiaire. À savoir de toujours séparer, surtout dans les nouvelles tôles, entre bâtiments différents, avec rotation des promenades. Et eux, ils se sont directement attaqués à ça en essayant de se retrouver ensemble.
Ce qui aurait permis de favoriser justement le grand nombre de personnes.
Ouais, voilà. Parce que de se retrouver à plus que 60 ou 60.
Parce que 200, c'est quand même assez énorme.
200, c'est
ça. Ça fait longtemps qu'il n'y avait pas eu un mouvement d'une aussi grosse ampleur. Quoi.
Ouais.
Ce qui, à mon avis, il faut. Noter aussi, c'est l'extrême réactivité quand même du pouvoir dans ces cas-là. Ils ont tout de suite évidemment envoyé les ERIS vu qu'ils sont là pour ça. J'avais vu aussi qu'ils avaient stationné immédiatement des dizaines de camions de CRS du Val d'Oise autour de la prison. Donc ils sont venus en fait pour rien, qui n'ont rien fait. Mais il faut quand même imaginer l'état d'esprit que ça devait être ces deux soirs-là d'émeutes là-bas où... des mecs sont dans leur camion de CRS en sachant très bien qu'à l'intérieur, ça règle des comptes et il y a des gens qui se font défoncer. Et ils sont là en se frottant les mains au cas où, si jamais ça dérapait, si jamais eux aussi pouvaient intervenir ou si jamais des gens venaient à s'évader ou à sortir, ils étaient là forcément prêts à intervenir.
Puis ça fait aussi un peu un espèce de périmètre filtrant d'éventuelles personnes qui viendraient à la pêche aux infos, etc.
On peut imaginer ça. No Man's Land, quoi. C'est sûr que quiconque venait se balader autour pour voir ce qui se passe en rassemblement de soutien ou quoi que ce soit se faisait, à mon avis, contrôler et ficher sévèrement. Et sinon, l'autre truc aussi, c'est la réactivité répressive aussi du point de vue de la justice. Parce que dès la première révolte, ils ont tout de suite balancé 5 personnes en comparution immédiate, je crois, ou déférées au parquet.
Non, ils passent en procès le 14 mars.
D'accord.
Et extraire immédiatement, juste après, les 36 personnes comme ils l'ont fait, ça montre que pour eux, il y a vraiment un enjeu à tout de suite briser le feu qu'il peut prendre dans une prison. Ça s'est joué en 48 heures, 50 heures. Une quarantaine de personnes donc, ont été extraites de cette prison et dispersées sur
Mais
le territoire.
Mais ça a quand même duré sur une semaine. Quoi. C'est quand même ça qui est...
C'est les 5 premiers et quand ils sont fait transférer, ça a continué derrière en fait. Donc voilà.
Bon alors du coup, donc ça va rejoindre ça. Donc ça fait le lien avec ce qui s'est passé récemment à Saint-Quentin-Fallavier, donc qui est plus proche de chez nous en Isère. Donc le 24 février. Donc il y a eu une mutinerie aussi et alors dans la version des médias donc. Servi par radio, on peut imaginer par Radio Maton. Donc en fait,
Oui, parce qu'on ne le répétera jamais assez, quand on voit des choses dans la presse sur ce qui se passe en prison, systématiquement,
c'est Radio Maton.
Les communiqués des syndicats de surveillants et ce que parfois ont bien voulu dire les chefs de l'administration pénitentiaire, quoi. Enfin, on le dit tout le temps, mais...
On ne cessera de le répéter. Et donc là, en fait, il y aura une quarantaine de détenus qui auraient refusé de regagner leur cellule. Et en fait, donc, ils se seraient retranchés dans deux cours pénitentiaires. Et en fait, bah, pour un peu faire un peu du poids dans leurs revendications, bah, ils ont pour résister, donc ils auraient détruit des grillages, pris des barres de fer et tout, etc. Donc, suite à ça, bah, comme pour ce que tu disais, Nico, pour Osni, il y a eu des ERIS, donc les équipes régionales d'intervention et de sécurité, qui sont arrivées. Là, les médias nous disent à bord de trois quarts, sauf que vous avez d'autres versions suite pour Saint-Quentin, quoi. Et donc, ils sont arrivés de Dijon. À ce qui paraît, ils seraient aussi venus d'Isère. Enfin, ils venaient d'un peu de partout en France, là, ces ERIS. Donc, bah, voilà, c'est le truc de répression, baston, etc. Et donc, ça s'est fait au moment, en fait, où il y avait un parloir qui devait avoir lieu. Donc là, les gens ont commencé un peu à se demander, les proches qui venaient voir les gens en prison ont commencé à se demander un peu ce qui se passait, etc. Et ils ont quand même réussi à entendre des tirs à l'intérieur, enfin depuis l'extérieur, ils entendaient des tirs à l'intérieur, quoi, ce qui peut quand même affoler pas mal de gens. Et ils ont aussi vu des ambulances arriver dans la foulée, quoi. Et donc, sachant qu'il y en a souvent après des émeutes qui finissent dans les mitards, etc., enfin, qui peuvent rester quelques jours sans soins, là, on peut se demander quand même quelle a été l'ampleur des dégâts sur les prisonniers quand il y a deux ambulances qui sont dépêchées. Et je pense pas que c'était pour les ERIS. Donc voilà. Et donc, alors, je sais pas. Qu'est-ce que vous voulez revenir sur la version pénitentiaire?
La version officielle, c'était que il se serait révolté par rapport à la bouffe qui leur aurait servi de la viande avariée, qui était limite bleue, etc. Donc ça, c'est la version officielle. C'est la Sodexo qui gère depuis pas longtemps la bouffe à Saint-Quentin-Fallavier. Ça fait 2 mois. Et déjà, bon, il y a eu déjà pas mal de problèmes par rapport à ça. Donc ça, c'est la version officielle. Bon, nous, on a eu d'autres sons, mais bon, ça, on y reviendra plus tard. Et il se trouve que une semaine avant, comme quoi des fois les matons peuvent être des visionnaires, il y a eu un l'UFAP
sans trop non plus.
L'UFAP pénitentiaire a un communiqué qui dit en gros qui dit plusieurs choses. Alors, par exemple, je vais lire quelques extraits. Il dit « La tension insupportable au sein de la prison, les règlements de compte incessants entre détenus nous conduisent à redouter la survenue d'événements dont nous craignons qu'ils soient inévitables. » Donc voilà. Après, il précise qu'ils ont perdu le contrôle en disant « Les détenus sont aux commandes et les personnels encaissent moralement. »
Bien sûr.
Voilà. Donc ça, c'est... voilà, c'est...
On les croit.
Voilà, etc. Donc ensuite... Alors ça, c'est assez drôle parce que, justement... Il demande, donc l'UFAP une sa justice, ne voit pas d'autres alternatives que d'entreprendre le transfert en nombre important de détenus insoumis, ceci pour silager dans un premier temps la pression sur la maison d'arrêt. Alors ça, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a vu qu'il y a eu pas mal de transferts, et il y a pas mal de gens qui ont été transférés, enfin d'après ce qu'on nous a dit, hein, donc à prendre avec des pincettes, mais des gens qui ont été transférés qui n'auraient rien à voir avec le mouvement. Donc tu vois, c'est assez drôle qu'une semaine avant... Eux, ils écrivent qu'il faut transférer des gens, des détenus soi-disant insoumis, et que après, bon, il y a ce mouvement-là, et ils profitent de ça pour transférer plein de gens, même ceux qui n'ont rien à voir. Donc voilà. Ensuite, donc ils demandent aussi, toujours ce même syndicat, sollicite de la part de nos autorités un message de soutien qui doit s'accompagner d'une présence de nos ERIS pour parer à toute éventualité de rébellion organisée par la population pénale, mais aussi pour sécuriser le personnel de l'établissement durant son activité, ceci jusqu'à la reprise en main de la population pénale. Donc voilà. Donc là, est-ce que leur demande du coup a été assouvie puisque les ERIS se sont pointés? Bon, après, je sais pas s'ils se sont pointés avant le mouvement, ou s'ils étaient déjà sur place, ou s'ils ont été dépêchés après. Mais bon, en tout cas, voilà.
En tout cas, ils sont hyper réactifs, comme disait Nico, et ils sont arrivés très rapidement.
Ouais. Exactement, avec en plus des gendarmes. Donc nous on y allait là-bas.
Bah déjà, attends, peut-être ouais. revenir sur ce communiqué de Maton et dire que c'est complètement faux, que la prison, elle n'est pas gérée par les détenus, il faut arrêter le délire. Quoi.
Ouais, ce sera étonnant.
Oui, mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que à peu près au même moment, ils ont sorti un autre communiqué, les syndicats de Maton, je ne sais plus lequel, disant, attention, enfin dénonçant le fait que depuis que la Sodexo, donc la boîte privée, gérait la nourriture là-bas, ils servaient de la nourriture avariée et que c'était grave et qu'il fallait faire quelque chose. Mmh. Donc en fait, ils se positionnent d'un côté en défenseurs de, quand même, des conditions de détention des détenus. Ils se font passer pour ça, c'est pas vrai. Parce que du même coup, à peu près le même jour, ils disent « Ouh là là, mais on n'arrive plus à tenir nos détenus », ce qui est quand même un peu surprenant. Et donc, on veut des gens pour venir les matraquer, quoi. Donc,
et en plus,
ils m'ont vraiment énervé. Sur
c'est pas vraiment que ça, parce qu'en plus, à la limite, qu'ils donnent de la bouffe avariée aux détenus, je pense pas que ce soit leur principal souci, parce que dans ce communiqué, c'est que ça peut avoir des conséquences pour eux, parce que dans le communiqué que tu parles, ils disent, donc ça c'en est un autre, ils disent... donc l'UFAP s'insurge contre l'inconscience de tels actes, donc donner de la bouffe avariée aux détenus, qui vont bien au-delà de la sécurité alimentaire et qui mettent en danger la sécurité pénitentiaire et donc la sécurité du personnel.
Leur voilà, paix donc... sociale et...
Donc là, c'est leur sécurité à eux. C'est, voilà.
C'est clair, au moins.
Donc voilà, donc nous, on y a été. Voilà. Et voilà, on a eu quelques petits bruits de couloir.
Ouais, donc en fait, nous, on y allait. Enfin, je veux rappeler pourquoi on y allait aussi. C'est qu'on s'est dit, ben nous, on en a marre qu'il n'y ait que la version toujours de la paix et des syndicats de surveillants dans les journaux. Et ben, rappeler qu'avec nos tout petits moyens, notre but, c'est de faire sortir la parole des prisonniers. Donc, on est allé pointer notre nez vendredi matin devant le centre pénitentiaire de Saint-Quentin, essayer de parler aux gens qui allaient au parloir et aux gens qui étaient dehors pour dire, faites sortir des infos, on est là pour ça. Et aussi pour dire... Si on peut, dans la mesure de notre possible, on veut bien soutenir les gens qui ramassent suite à ça, quoi. Alors, je le rappelle parce que c'est vrai que des fois, les gens, ils se demandent qui sont ces extraterrestres qui déboulent. Ils croient qu'on vient pour parler au directeur. Bon, bref. Et donc, donc pendant une matinée, on a recueilli pas mal d'infos. Alors, à savoir que c'est des points de vue des gens. On est sûr d'aucune de ces informations, mais quand même, elles sont instructives, quoi. Donc déjà, de tous les gens avec qui on a parlé de près ou de loin, de gens de proches de Saint-Quentin, il y aurait eu une 30 à 40 transferts après ce mouvement. Donc voilà. Et les mitards sont remplis à Saint-Quentin. On nous a parlé d'une trentaine de personnes aux mitards. Donc déjà, s'il y a 70 personnes qui ont été punies, ça fait plus que 30 personnes qui bloquent la promenade, mais bon... Et aussi, alors ce qui est vraiment, vraiment crade, je trouve, enfin entre plein d'autres trucs, il y a au moins tout un étage de Saint-Quentin, mais peut-être toute la prison. Les gens ont été enfermés dans leurs cellules pendant au moins 4 jours. C'est-à-dire aucune sortie en promenade. Et donc c'était la punition collective, même les gens qui n'avaient pas forcément grand-chose à voir avec ce qui s'est passé. Même les gens qui étaient au centre de semi-liberté, donc en dehors, à côté de la prison, ils ont été enfermés pendant 2 jours. Donc voilà, punition. Et on leur a dit, comme prétexte, au centre de semi-liberté, en tout cas, on leur a dit que c'était à cause du manque d'effectifs. Et bien entendu, c'est toujours le même prétexte qui sort à toutes les sauces. C'est pas vrai, vu qu'il y avait des tonnes d'héris, etc., et de gendarmes qui étaient là pour... Enfin, il manque pas d'effectifs, c'est pas vrai. Sinon, sur la répression les gens qui s'étaient retrouvés au parloir pendant que ça se rebellait à l'intérieur, ils parlent plus de 6 gros camions d'Héris. On parle de dizaines de gendarmes, même à la télé, même s'il ne faut jamais croire à la télé. Ils parlaient de centaines de gendarmes. Donc imaginez le déploiement de force vraiment phénoménal et qui devait être hyper flippant. Parce que quand tu es à l'intérieur et que tu n'as pas beaucoup de moyens de te défendre, et ben ça doit faire flipper ce déploiement qui te saute dessus. Et justement, les autres échos qu'on a entendus, c'est qu'il y a eu des tirs de flashball, des tabassages en règle, mais vraiment des bons gros tabassages, au moins une personne avec, enfin un détenu avec le bras cassé, etc. Et ensuite, nous, on a essayé de savoir s'il y avait des détenus qui allaient passer en procès suite à ça. On n'a pas réussi à savoir. Voilà. Sur le contenu du mouvement... Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a des dizaines de prisonniers qui ont refusé de remonter en cellule, donc le jeudi 24, à 11h, et qui sont restés en promenade au moins jusqu'à 15h, donc avant qu'on les force à remonter. Voilà. Donc, comme tu disais, Payoup, la version officielle, c'est que c'était à cause de la bouffe avariée, que c'est parti. Il y a au moins une personne qui nous dit, et elle a l'air assez sûre d'elle, elle était venue au parloir le jour même, Et elle, est, voilà. Elle dit non, non, il y a eu en fait une fouille le mercredi soir à 21h. Donc une fouille, c'est une perquise des cellules. C'est extrêmement relou. Enfin, pour les gens qui sont dehors, il faut s'imaginer. Ça veut dire qu'on rentre dans ta cellule et on retourne tout pour savoir, pour trouver des choses illégales. Et donc elle expliquait que c'était parti de là en fait. Ça leur avait clairement foutu les boules et ils se sont organisés à plusieurs dizaines. Ils ont dit demain on remonte pas de promenade.
Surtout, ouais, il faut préciser qu'à 21h, c'est normalement pas réglementaire entre guillemets.
Ouais.
C'est pas dans l'heure officielle des fouilles quoi.
Voilà. Et après, petite anecdote quand même, c'est y a une dame qui nous a dit qu'elle était venue visiter son mec et que lui, il lui racontait que tout ça était parti d'une bande de petits jeunes détenus qui s'amusaient à faire des gags aux surveillants et que c'était tout parti de là. Et les gags, en l'occurrence, c'est se planquer dans la cellule d'un autre type, se faire passer pour un autre et échanger de cellule ou jeter du dentifrice dans le dos d'un surveillant. Alors voilà, je sais pas, c'est sa version à elle, mais c'est pas mal à noter si tout est parti de là. Là, voilà, les surveillants ne tiennent plus leur prison parce qu'on leur jette du dentifrice dans le dos. Bon, bref. Et pour terminer là-dessus, en fait, sur les raisons ou ce qui a déclenché cette révolte, eh ben nous, donc on demandait aux gens qu'on croisait, vous savez de quoi c'est parti. Et en fait, les gens, donc soit des proches de détenus, soit des gars qui étaient en semi-liberté et qui allaient retourner dans leur prison. Les gens, en fait, ils nous donnaient une liste énorme de raisons de mécontentement. Donc, on voit que ce soit parti de la bouffe avariée ou des fouilles de cellules, en fait, il y avait un cumul de mécontentements qui font que, bah ouais, à un moment, ça pète, quoi. Et donc, entre autres, on nous parlait des cantines qui fonctionnaient n'importe comment depuis que ça avait été privatisé. Donc, par exemple, tu cantines du café et tu reçois de la lessive, comme ils disaient. Effectivement, on nous a parlé à plusieurs reprises de la bouffe dégueulasse. On nous a expliqué que les détenus, quand ils sont à deux par cellule, eh ben, ils payent chacun une fois pour un seul frigo et une seule télé, donc ils payent double. Que les activités, c'était la misère, etc. Quoi. Je crois que c'est à peu près tout.
Et puis la bouffe avariée, ça ne veut pas simplement dire que la bouffe est dégueulasse, que tu te plains de ce qu'on te sert, c'est aussi peut-être des... Tu chopes la gerbe la nuit ou la chiasse et tout, et voilà, donc c'est pas...
Enfin, même en fait, au-delà d'une bouffe avariée, enfin, peu importe la raison, en fait, là, il y a un mouvement de vie aussi, c'est ça, enfin, qui est un moment de reprise un peu de contrôle sur soi, sur sa détention, enfin, c'est, ça aussi, c'est un truc à dire, en fait. Mais bon, ouais, juste pour illustrer vraiment rapidement les Eris, il faut quand même savoir qu'à Corba, en 2010, il y avait eu un mouvement et que suite à ça, il y a deux personnes qui ont saisi le... Il y avait eu un mouvement qui avait été réprimé par les Eris et que suite à ça, il y avait deux personnes qui ont saisi le parquet de Lyon pour violence volontaire. Et en fait... Juste, un moment, il y a un de ces types, en fait, il s'est pris donc des jours d'ITT suite à une intervention des Eris dans sa cellule, où lui, en fait, il s'est fait choper pour avoir insulté des matons, des Eris, sauf que le truc, c'est quand même, il s'est fait mettre à terre au sol, coup de poing dans le thorax, etc., donc suivi d'un ITT, et que là, il dit, bah ouais, là, j'insulte les types, quoi, enfin, c'est quoi ce délire, quoi. Et donc voilà, donc c'est un peu ce genre de méthode qu'ils ont. Ils arrivent cagoulés, masqués. C'est de la folie quoi. C'est de la folie.
Ouais, mais tu voulais dire.
Non, vas-y.
Moi, ce que je voulais dire un peu pour conclure, c'est qu'en fait, nous, ça nous touche vachement de savoir que des dizaines de prisonniers se sont révoltés à l'intérieur et qu'on cherche vraiment les moyens de comment les soutenir, comment faire au moins savoir dehors ce qui s'est réellement passé. Pourquoi ça s'est passé. Et c'est vrai que c'était un peu compliqué parce que nous, on est allés devant la prison. Je sais pas, peut-être on y retournera. Et déjà, les gens, au début, nous parlaient beaucoup. Puis finalement, nous ont pas dit beaucoup de choses. Les gens, ils ont peur de parler, franchement. Les gens ont pas l'habitude de parler. Plein de gens nous ont dit, mais les prisonniers, on leur donne jamais la parole. Donc, ils vont rien dire. Donc, c'était un peu triste. Et aussi, justement, pour rebondir sur ce truc des Eris, moi ça me touche aussi beaucoup parce que je pense qu'ils se sont fait massacrer la gueule à l'intérieur quand on sait la violence qu'il peut y avoir de la part des Eris, etc. C'était pour dire ça. Et vraiment, si il y a des gens qui ont des infos, faites tourner, envoyez-les nous, on rappellera notre adresse à la fin. Et aussi, ah ouais, j'ai oublié en intro de dire, il est possible de nous appeler pendant l'émission, pendant les musiques, si possible, sinon on ne pourra pas vous répondre, au 04 77 438 895. Voilà, 04 77 438 895. Et puis, on prendra un numéro, on rappellera, quoi. Voilà.
Bon, un peu de musique.
Et juste ouais. Une dernière truc. Est-ce qu'on l'a dit qu'il y avait des personnes qui avaient été transférées suite aux événements de Saint-Quentin?
Ouais, 30 ouais. à 40, sûrement.
30 à 40, donc voilà, s'il y a peut-être eu un transfert, des transferts peut-être. À l'Atalo, c'est peut-être possible aussi. Donc,
Wakamba, ouais.
Si vous entendez des choses, voilà, n'hésitez pas à nous le dire.
Voilà, un peu de musique.
Bah voilà, c'était les Detroit Cobras. Vous êtes toujours à l'écoute de Papillon sur Radio Dio. Bah maintenant, on va enchaîner. On voulait parler en fait de comment ça fonctionne au parloir. Donc, ces moments où on peut aller visiter des détenus dans leur prison. Voilà. Donc, je resitue un peu. On en a parlé vite fait la dernière fois. En fait, bah dans les parloirs à la Talaudière, il y a des murets de séparation entre le détenu et la personne qui vient le visiter. Et en fait, un pote nous a dit « Non, mais ça, c'est illégal, en fait, c'est muret depuis des années. Donc, ce serait cool de bouger et de protester contre ça. » Donc, c'est parti de là. Donc, je voulais commencer par décrire comment c'est un parloir à la Talo. C'est un peu différent dans toutes les prisons. C'est toujours aussi glauque d'aller voir quelqu'un qu'on aime en prison, mais bon. À la Talo, c'est quoi, t'as quoi, t'as 80 cm de large, 1m20 de long, 1m50 peut-être, ouais. 2 mètres, allez. 80 cm de large, 2 mètres de long, une porte fermée derrière toi. Une porte...
Avec des chewing-gums dedans, tu sais, dans ouais. la poignée là.
Une porte fermée de chaque côté, côté prisonnier et côté visiteur.
Tabourets trop petits en plastique.
Des tabourets en plastoc pourris, inconfortables et trop petits. Et entre les deux personnes qui se voient, un muret.
Avec une
qui
tablette.
Est à peu près à hauteur de table, bon, qui est dégueulasse, bien entendu. Et voilà. Et en plus, vu que les tabourets en plastique sont minuscules, en général, t'as les coudes hyper hauts. Enfin, bref, c'est naze, quoi. Et ouais, à savoir aussi que les portes, elles sont vitrées des deux côtés. Et il y a des surveillants qui passent des deux côtés, qui surveillent ce que tu tournes là-bas dedans.
Un espèce de faux jour, en fait, les vitres.
Ouais.
Enfin, t'es observé, mais toi, tu vois pas trop. Enfin, t'arrives à voir ou pas trop, en fait. C'est un peu bizarre, des fois.
Voilà. Et voilà, et le truc, en fait, de ces murets de séparation, c'est vrai que, bah, on y reviendra plus tard, mais c'est vraiment un détail qui n'en est pas un, en fait. Et c'est vraiment une barrière entre toi et la personne que tu vas voir. Et au bout d'un moment, tu te rends compte que ça fait bien son rôle et son travail, quoi. Donc voilà, nous on s'est dit ouais, c'est vrai, pourquoi pas râler sur les murets de séparation au parloir, c'est quelques bouts de moellons. Donc voilà.
Et puis il y a plusieurs détenus en fait qui en ont un peu marre de ça aussi, quoi. Ça c'est un truc qui commence un peu à... Donc voilà. Donc du coup, nous, on est revenu un peu sur de manière générale, comment il y a eu... Enfin, de quelle manière se sont fait un peu des luttes d'un point de vue un peu historique, mais on ne va pas être relou à la version scolaire, etc., quoi, autour des parloirs. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les dispositifs de séparation aux parloirs donc, ont été abolis, enfin pas abolis, du coup, vu qu'ils existent toujours, mais sont censés être abolis depuis 1983. Et ça, c'est le fruit d'une des nombreuses luttes de prisonniers qui ont permis, normalement, d'arracher des droits qui touchaient à la vie quotidienne, quoi. Par exemple, l'habillement, la correspondance, etc. Et notamment la lutte pour avoir des parloirs libres, c'est-à-dire des parloirs sans dispositif de séparation. Alors, on pourra revenir aussi sur la notion de parloir libre à la fin, si on a un peu le temps. Mais bon, bref, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est quand même un problème assez ancien, cette séparation, puisque déjà en 1831, le 25 septembre très précisément, à la prison parisienne de Sainte-Pélagie, donc il y a eu un événement assez rare et qui a marqué les esprits à l'époque et qui a appelé l'enlèvement des Sabines en référence à Rome, etc. Enfin bref. La Rome antique et tout, bon, ça c'est une autre histoire. Mais bon, bref, il s'agissait du fait que des détenus et leurs compagnes avaient brisé les grilles des parloirs et s'en étaient allés dans les cellules, quoi, pour un peu plus d'intimité. Donc déjà, c'est un truc qui remonte de longue date. Et donc voilà. Et suite à ça, il y a eu toutes les histoires avec le cap.
Ouais, il y a tous les trucs dans les années 70 avec le cap dont on a souvent parlé dans les dernières émissions. Et en fait, dans le journal du Cap, ils avaient édité un programme en 12 points, dont le 12e point était l'abolition de la prison. Et parmi ces 12 points, c'est une espèce de plateforme de revendication, on va dire, de détenus qui ne bouge pas et qui n'a pas bougé pendant toute la décennie 70. Et il y a le point 8, parmi ces 12 points, il y a le point 8, justement, qui s'appelle parloir libre. Donc dans ces points, ils ont écrit un petit texte par rapport à ça et justement pourquoi ils revendiquent le parloir libre. Donc je vais vous lire ce point 8 qui s'appelle parloir libre. Donc camarades anciens détenus, souvenons-nous de notre premier parloir. Ne croyez-vous pas que c'est là que vient notre première révolte, car nous venions d'avoir la démonstration de l'inhumanité du système pénitentiaire. Pourtant, l'avions-nous attendu ce premier parloir? L'avions-nous préparé en pensée? Nous allions enfin pouvoir parler à ceux qui nous aiment. Il faut nous aimer pour subir les démarches nécessaires à l'obtention d'un parloir. Nous pensions pouvoir consoler, conseiller, redonner espoir, peut-être même demander pardon. Nous faire comprendre enfin des seuls êtres qui en sont capables. Nous comptions sur cette pauvre demi-heure de bonheur, après toutes ces interrogations devant les flics ou le juge d'instruction. Cependant, combien d'entre nous sont restés pratiquement muets? Camarades anciens détenus, rassemblons nos souvenirs. En avons-nous vu des ménages brisés, des unions finies, des familles déchirées, des drames innombrables par la faute de ces horribles parloirs? Les ministres, les députés, tous ces messieurs qui prétendent s'occuper de la chose publique ne peuvent pas faire croire à leur volonté de réforme tant qu'ils n'auront pas totalement transformé le système des visites aux tôlards. Mais peut-être ne savent-ils pas ce que sont les parloirs des prisons françaises. Nous allons le leur expliquer. Le parloir, c'est d'abord une suite de démarches contraignantes pour les visiteurs qui doivent demander un permis de visite au juge d'instruction, lequel a ses heures de réception rarement pratiques pour les travailleurs. Ce juge peut aussi refuser toute visite aux détenus ou seulement en autoriser certaines d'une manière arbitraire. Quand le détenu sera condamné, les visiteurs devront encore faire des démarches à la direction de la prison et la fréquence des visites sera diminuée. Le parloir, c'est aussi la file des visiteurs qui doivent attendre leur tour parqués tous ensemble, se démoralisant mutuellement en se contant leur malheur et arrivant assis sur les nerfs à vif devant le détenu. C'est l'attente du détenu, sorti de sa cellule 30 minutes avant la rencontre, brimé sans arrêt dans les couloirs qui le mènent au parloir. ne fumez pas, boutonnez votre veste, ne mettez pas vos mains dans les poches, etc. Lui aussi arrive au but dans un bel état d'excitation. C'est enfin le parloir proprement dit, une cage d'un mètre carré, poussiéreuse et obscure, une planche de bois pour siège, en face une grille. Ici se tient le détenu. À 50 cm, une autre grille, une autre cage, là se tient le visiteur. Derrière le détenu, un maton. Derrière le visiteur, de nombreux matons, plus un brigadier. Comment dans ces conditions pouvez-vous prétendre établir le caractère humain normal entre deux personnes agacées par vos tracasseries, se parlant derrière des grilles, sous surveillance étroite et pouvant être écoutées? Certains pays ont institué le parloir hygiénique. Au Cap, nous exigeons le parloir humain, c'est-à-dire libre totalement et permettant à tous les détenus d'avoir des rapports normaux avec leurs compagnes, de pouvoir recevoir et suivre normalement l'éducation de leurs enfants, de pouvoir recevoir convenablement leurs familles et leurs amis, quand cela leur convient et sans restriction. Voilà la seule véritable réforme que nous exigeons. Donc voilà. Alors ça, faut voir qu'à cette époque, c'était les parloirs hygiophones, hein, donc c'est-à-dire avec plexiglas, donc sans aucun contact physique entre le détenu et puis celui qui vient le voir. Donc ça a traversé vraiment toutes les années 70, cette revendication-là, dans toutes les luttes de détenus. Et en 81, arrive la gauche au pouvoir avec Badinter. Beaucoup d'espoir, etc., que ça change un minimum à l'intérieur. Et moins de mouvement à l'intérieur. Et en 83, ça reprend devant, parce qu'il se passe rien. Voilà, la réforme pénitentiaire pour promis, elle arrive pas. Donc il y a de nouveau des mouvements. Et en l'occurrence, des mouvements qui revendiquent l'enlèvement de ce dispositif de séparation dans les parloirs. Donc alors bon, il y a plusieurs mouvements, hein, notamment ça commence à Fleury, où Fleury-Mérogis, où 41 Tollard se taille les veines. Donc ça, on est en janvier 83. Après, ça suit à Marseille au Baumettes, où il y a 300 détenus qui montent sur les toits. Ensuite, il y en a plusieurs à Melun. Donc là, Melun, ce qui est bien, c'est qu'il y a deux ateliers, donc les travailleurs qui, eux, ont droit au parloir libre à ce moment-là, sans séparation. Ils se mettent en grève par solidarité pour les autres qui n'ont pas droit, qui n'ont pas accès à ces parloirs libres. Et puis après, il y a Nîmes. Bon, il y a plusieurs tôles qui se mutinent qui se met en mouvement, que ça peut prendre plusieurs formes, hein, grève de la faim, etc. Refus de remonter en promenade. Donc plusieurs mouvements par rapport à cette revendication-là. De parloir libre. Donc après, il y a la réforme pénitentiaire qui arrive, et justement en 83, il y a ce truc.
Le 26 janvier, ouais.
Vraiment une semaine après.
T'as un décret qui est promulgué en fait, justement, qui instaure le parloir sans dispositif de séparation. Donc ce qui laisse quand même une marge de manœuvre assez large pour la paix. Qu'est-ce qu'on entend par dispositif de séparation? Puisqu'aujourd'hui encore, il y a des murets qui séparent les prisonniers des visiteurs, comme à la Talaudière, par exemple. Et du coup, en fait, cette réforme de la part de la justice, c'était quand même animé par un esprit humanitaire, quoi. Enfin, voilà. Et la paix, bah, malgré tout, elle a dû, tant bien que mal, se plier à ça. Et en fait, l'abattement des dispositifs de séparation a été retardé par les syndicats de matons, comme d'habitude. Donc EFO et un peu dans une moindre mesure la CGT, donc qui sont opposés par tous les moyens à la création de ces parloirs. Et du coup, il y a un témoignage d'un détenu de la prison de Saint-Michel. Alors Saint-Michel, on s'est dit que ça devait être à Toulouse, mais on n'en est pas sûr. Qui date de mars 83 et qui, donc ça c'est après la promulgation du décret, et qui dit « Le responsable de l'atelier menuiserie de la prison de Saint-Michel refuse de faire les encadrements des portes nécessaires à l'installation des parloirs libres. Comme solution transitoire de remplacement, le directeur de Saint-Michel propose la mise en place de grillages à la place du plexiglas, une régression de 20 ans en arrière. » Et ce détenu, il cite aussi un gardien-chef qui dit « Ici, il n'y aura pas de parloir libre tant que je serai là. En tout cas, pas pour tout le monde. C'est dans ce contexte, et après, donc, il raconte que c'est dans ce contexte qu'une centaine de détenus ont décidé de se mettre en grève de la faim et que le soir, tout un quartier de la prison s'est mis à taper spontanément en porte, ce qui a donné lieu, comme aujourd'hui, ce qui a pu se passer à Saint-Quentin ou à Ony, à des répressions, des transferts, des placements en QHS, donc quartiers de haute sécurité qui sont actuellement les quartiers d'isolement. C'est les mêmes rebaptisés, et des placements en mitard aussi. Donc voilà. Et donc, en fait, nous, on est un peu près d'accord, c'est que même si la paix, elle a retardé, en fait, l'instauration de parloirs libres, Et que bon, petit à petit, ça s'est un peu justement libéralisé, etc. En attendant, il y a le pendant sécuritaire de cette libéralisation. Et c'est-à-dire qu'au-delà des contrôles d'identité qui étaient déjà en vigueur, c'est à cette époque, en fait, qu'ont été mis en place le contrôle des proches qui viennent, des visiteurs par détecteur métallique. Et c'est aussi à cette période qu'on a vu apparaître la notion, mais complètement arbitraire, d'attitude, en fait, des personnes au parloir. C'est-à-dire que les personnes qui sont au parloir et qui peuvent... du coup, se toucher, doivent avoir une attitude correcte et décente. Alors là, c'est la bonne morale dégueulasse qui a des surveillants. Et puis là, ça laisse vraiment place à l'arbitraire aussi. Donc le surveillant, il peut rappeler à l'ordre les personnes, interrompre le parloir, et ça peut même, du coup, donner à des sanctions pénales. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'à l'époque, il y avait une circulaire, en fait, la circulaire Klein, qui était distribué donc aux personnes qui étaient titulaires d'un permis de parloir libre, et qu'en fait ils devaient adopter une attitude correcte et décente, ils devaient éviter d'être bruyants, il fallait qu'ils gardent les enfants auprès d'eux, c'était tout un espèce de micmac où il y avait vraiment ce truc sécuritaire et l'impression peut-être encore plus d'être observé. Le surveillant à l'affût qui pouvait interrompre dès que ça lui chantait, au moindre dérapage, ou s'il a tout simplement un prisonnier ou une prisonnière dans le pif, casser le parloir et voilà.
Ouais, moi ce que je voulais ajouter, c'est justement avec ces parloirs prétendument libres, qui ne le sont pas, t'es pas libre au parloir, c'est ça, c'est qu'il y a une... Il y a des possibilités après d'arrangement de ce qu'on fait ou pas, de dépasser les normes, les réglementations ou pas, et qui sont autant le fruit des rapports de force que peuvent un peu essayer d'imposer les détenus, et aussi des petites choses que peuvent lâcher les surveillants.
Ouais, une fausse complicité.
Parce qu'ils lâchent un peu sur le règlement pour acheter un peu de paix sociale. Enfin, moi, je le vois comme ça. C'est un peu ce truc de la carotte et du bâton. Ils peuvent te laisser passer par-dessus le muret de séparation. Mais ça veut dire, t'as vu, je suis cool avec toi, donc tu vas être cool avec moi. Et si tu l'es pas, je t'en empêcherai. Enfin, c'est vraiment comme ça que fonctionne la tôle, quoi.
Et puis déjà, à la Talo, ça se passe comme ça. On a l'exemple à côté, quoi.
Voilà. Donc, pour terminer un peu sur ce sujet, donc ce que dit donc 83, abolition des dispositifs de séparation au parloir, c'est toujours le cas, sauf décision contraire du chef d'établissement. Donc, pour des raisons de sécurité ou s'il y a eu un incident au parloir, il peut imposer le parloir avec hygiaphone. Donc, comme on l'a dit, dispositif de séparation, c'est à la libre interprétation des directions des établissements, on dirait, vu qu'il y a des murets encore dans pas mal de tôles qui séparent les gens, que donc il est possible de râler là-dessus.
Ouais, c'est ça. En fait, la loi, elle est assez floue pour laisser une marge de manœuvre à l'administration pénitentiaire et justement, autoriser de manière un peu... ces murets, en fait.
Puis, ouais, c'est juste que la plupart du temps, ils ont juste enlevé le plexiglas et du coup, ils ont laissé le muret. Voilà. Dans la plupart des tôles, c'est comme ça que ça s'est fait, en fait.
Voilà. Ouais. Et enfin, tout ça pour en venir... Ouais, c'était ça. Bon, pour en venir à ce truc, que... c'est pour ça que je disais c'est un détail qui n'en est pas un. C'est que déjà, c'est vraiment un objet, ce muret de séparation, qui symbolise et qui cristallise tout ce que peut être la prison. Ça te sépare encore et toujours. Ça te met des règles dans ta tête. Si tu passes par-dessus un pauvre mur, tu vas enfreindre la règle. Est-ce que tu vas avoir droit d'enfreindre la règle, etc. De toute façon, t'es à la merci des matons. Et bien sûr, râler contre ça, ça peut paraître un peu dérisoire. Et nous, on s'est dit, s'il s'agit de râler à plusieurs, de râler... en se concertant avec des prisonniers, avec d'autres proches de prisonniers, et pourquoi pas. Donc si ça vous intéresse, c'est pour ouvrir un peu le truc là-dessus, quoi. Si ça intéresse des gens, contactez-nous, on verra ce qu'on peut faire. Mais mettre en commun ses plaintes, quoi, se plaindre tout seul, c'est chiant, ça sert pas à grand-chose.
Juste par exemple, à Poissy, en fait, en 2002, à la centrale de Poissy, il y a eu une plainte collective des détenus, justement, par rapport à... On parle de le terme officiel, juridique, c'est la mise en conformité des parloirs. Mais là, oui, c'était vraiment une plainte collective, une lutte collective, quoi. Et justement, eux, ils se battaient à l'époque, donc on a retrouvé un peu, on a retrouvé leurs lettres, et ils se battaient justement sur les normes pour les parloirs multifamilles. Et on voit, enfin, juste là, la talo, t'as 1m50, je ne sais pas comment les gens y font, enfin, les familles avec trois gosses, la grand-mère, et enfin, juste comment tu fais, quoi, tu tiens pas là-dedans, quoi, et que c'est pas du tout, enfin voilà, enfin, que ça peut être un biais d'attaque, en fait, voilà.
Absolument. On passe un peu de musique.
Ouais.
Allez.
Too strong. Too black. Too strong.
Yo, Chuck, these dirty drippers are still front on us. Show them that we can do this, cause we always do this. Yeah, boy.
Bass, how low can you go? Death row. What a brother, no, once again, back is the incredible rhyme animal, the uncannibal thief, public enemy number one, 5-0 said freeze, and I got numb, can I tell them that I really never had a gun, but it's the wax that the Terminator X bun, now they got me in a cell, cause my records they sell, cause a brother like me said, well, Farrakhan's a prophet, and I think you wanna listen to what he can say to you, what you ought to do is follow for now, how would the people say, make a miracle, keep up the lyrical, black is back all in, we're gonna win, check it out. I'm saying inside music that the critics are blasting me for. They'll never care for the brothers and sisters. Why, cause the country has us up for the war. We got to get them straight. Come on now, they're gonna have to wait till we get it right. Radio stations are questioning blackness. They call us a black, but we'll see if they'll play this. Sex, I call him Norm, you know, he can cut a record from side to side. So with the ride, the glide, what should be safer than a suicide? Soul control beat is the father of your rock and roll. Music for watching, for witching, you call a band man making a music of music, but you can't do it, you know. You call them demos,
but we ride demos too.
What you gonna do? Rap is not afraid of you. Beat is for Sonny Bono,
beat is for Yoko Ono.
Run the MC first, and the DJ could be a band standing its own feet, get you out your seat. Beat is for Eric B and the LL as well, hell.
Watch is for Anthrax,
still it can rock bells. Ever forever, universal it will sell.
Voilà, donc vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Papillon sur Radio Dio. Là, on va un petit peu cuisiner, enfin non, bref. On va passer à l'interview de Nico de la Caisse de solidarité de Lyon. Ça faisait longtemps qu'on voulait vous inviter, parce qu'on trouve que ce que vous faites, ça vaut le coup de le faire connaître. Et puis, ça fait carrément écho à toutes les questions que nous, on se pose et toutes les choses que nous, on voudrait faire et... comment on pourrait un peu mettre en lien toutes ces petites luttes et ces petites solidarités qu'on essaye de mettre en place.
Donc salut.
Salut.
Et voilà, est-ce que tu peux nous présenter un peu la caisse que vous faites
Ouais. Alors, donc la caisse de solidarité, c'est une tentative d'auto-organisation face au système police, justice, prison auquel on doit faire face. À la base, ça vient un petit peu des mouvements sociaux, vu que les mouvements sociaux récents se sont souvent heurtés à une répression violente, notamment les mouvements étudiants, avec encerclement des universités par les CRS, les flics qui rentrent à l'intérieur, qui arrêtent des gens, et à chaque action, des arrestations, et du coup, une nécessité d'assurer la solidarité, parce qu'on peut pas être juste ensemble uniquement quand on descend dans la rue, il faut rester ensemble, surtout quand on a des gestes d'occupation illégale, par exemple, que ce soit d'amphithéâtre ou de la rue. Il faut rester ensemble dans l'après, quoi. On peut pas se laisser tomber une fois que les gens sont arrêtés. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que souvent, par exemple à Lyon, il y avait eu une manifestive en 2005, donc une manifestation avec du bordel sonore, des gens qui foutent un peu le bordel dans la rue, qui avait été réprimée par la police, arrestation par la BAC, etc. Et on s'est rendu compte à ce moment-là que c'était l'habitude pour faire face à la répression, c'était de monter un comité de soutien. À chaque fois, donc, on monte un comité de soutien pour telle et telle personne. Mais vu qu'après, il y a eu les émeutes d'octobre 2005, il y a eu le mouvement contre le CPE en 2006, il y a eu l'élection de Sarkozy en 2007, ce qui a donné lieu à des émeutes partout en France, y compris à Lyon, et donc des arrestations. Les mouvements à l'université, on s'est rendu compte qu'on ne peut pas faire à chaque fois un comité de soutien pour telle et telle personne, parce que ça oblige à tout recommencer, il n'y a pas de transfert de compétences, quand il reste de l'argent, bah, c'est compliqué de le refaire circuler, et voilà, donc on s'est dit qu'au lieu de rester sur ce schéma de faire un comité de soutien au cas par cas, il fallait prendre acte du fait que la répression c'était un champ de lutte en tant que tel, et que c'est pas juste les dégâts collatéraux de quand on essaie de se bouger politiquement. On peut pas se bouger aujourd'hui politiquement en France si on n'assure pas ses arrières contre police, justice, prison. Donc ça veut dire que pour continuer à se bouger, il a fallu mettre de l'argent de côté, trouver un moyen de gagner de l'argent, contacter des avocats qui sont moins pourris que les autres, ce qui n'était pas gagné, et essayer de tisser, de bricoler des complicités avec ces avocats-là. Ça veut dire discuter les défenses de façon collective. Ça, c'est un gros problème, parce que les avocats, ils sont dans un schéma où l'individu est unique. Et donc, du coup, quand il y a plusieurs personnes qui se font arrêter, nous, on essaie d'avoir un seul avocat pour plusieurs personnes. Et s'il y a différents avocats, de bricoler des défenses collectives de façon à enfoncer personne et à ce que tout le monde s'en sorte le mieux possible. Et donc voilà, c'est de tout ça qu'est née la caisse de solidarité. Donc c'est un peu le résultat d'expériences précédentes des comités de soutien et une prise d'acte de la situation, quoi, du fait que c'est impossible de combattre politiquement sans s'organiser et sans anticiper la répression. Et donc voilà, un collectif plus stable s'est monté, qui était donc pas en soutien uniquement à quelques personnes, avec pour objectif donc de commencer par gagner de l'argent. Et par exemple, très concrètement, pour pouvoir anticiper lors des mouvements sociaux, on a décidé de prendre une ligne de téléphone portable qui est allumée en permanence quand il y a des manifestations ou il y a des risques d'arrestation, et ce qui permet de faire circuler l'information assez vite, de pouvoir utiliser aussi le média internet qui est Rebellion, et de par exemple d'appeler très rapidement à des rassemblements de soutien, de dire très rapidement combien il y a de personnes qui sont arrêtées, où elles sont, etc., et qu'il y ait du monde. Ça a permis, par exemple, sur le dernier mouvement en octobre, qu'il y ait du monde dès que des personnes ont été déférées devant le tribunal de grande instance à Lyon, en comparution immédiate, de faire qu'il y ait très vite 150 personnes devant, et par exemple, y compris les cheminots, qui ont continué à soutenir, enfin, on est resté ensemble avec les cheminots, par exemple, qui ont débarqué depuis la gare de Perrache jusqu'au tribunal de grande instance à Lyon pour soutenir des émeutiers qui se sont fait arrêter et qui ont des cheminots, donc ont craqué des fumigènes, etc. Donc voilà, le but, c'est de continuer à faire front ensemble une fois que la police est intervenue, parce que la stratégie policière, évidemment, c'est de séparer, comme on l'a vu avant avec le déplacement des détenus insoumis. Une arrestation, c'est ça, ça vise à isoler des gens, à les mettre seuls. Et tout le travail de la caisse, c'est d'essayer de, sur ce geste de la police qui consiste à séparer, à isoler, de faire l'inverse et de se rencontrer. Et voilà, un des trucs qu'il faut dire, c'est que c'est pas du tout une expérience négative de gérer la souffrance, de faire de l'humanitaire, etc., ou du caritatif. Non, pas du tout. Autour de ces coups que porte la police, concrètement la BAC qui intervient, qui balance des coups de matraque ou des coups de flashball et qui sépare quelqu'un, et ben dans tout le travail qu'il y a pour essayer de se retrouver avec cette personne, de retrouver ses proches, ses amis, des témoins, etc., ben, y a des rencontres qui naissent, quoi, qui sont hyper fertiles, hyper positives, et voilà, en quelques mots.
Et qu'est-ce que vous faites un peu concrètement pour soutenir les personnes qui sont arrêtées ?
Bah, concrètement, on essaie de leur donner, leur proposer des avocats qui, par exemple, prennent l'aide juridictionnelle, ce qui évite de dépenser de l'argent parce que la répression coûte très cher. Voilà. Donc, sachant que ça, c'est difficile parce qu'une fois que quelqu'un est en garde à vue, c'est très compliqué d'intervenir vu que la personne a très peu de moyens pour prévenir. Quand on n'est pas de la famille, on ne nous donne aucun renseignement. Et du coup, l'enjeu, c'est d'essayer de faire passer avant des numéros de téléphone d'avocat pour que la personne, ou un nom d'avocat pour que les personnes en garde à vue puissent appeler cet avocat. Sinon, une fois qu'elle est en garde à vue, on ne la revoit pas avant le tribunal, avant la comparution immédiate. Donc voilà le type de soutien du point de vue juridique. Après, une fois que les gens sont condamnés, parce que même si on a des avocats un peu moins pires que les autres, on a très peu de prise sur les décisions prises par la justice, surtout à Lyon, où il y a une justice vraiment qui assume d'être féroce, avec des jugements moraux, éthiques, etc., et donc une répression lourde. Une fois que les condamnations sont prononcées, on aide à payer les frais d'avocat, et surtout, si des gens tombent en prison ferme, on considère que c'est le minimum que toute personne qui se fait arrêter sur des actions collectives puisse bénéficier d'un soutien pour cantiner à l'intérieur, vu que, comme vous devez le savoir, la prison, ça coûte cher quand on est à l'intérieur. Tout est 3 fois plus cher pour avoir un petit peu de moutarde, par exemple, pour avoir amélioré un peu la sale bouffe que Sodexo vous sert, ben, ça coûte 3 fois plus cher. Et donc, ça nous semble être un geste de base politiquement d'assurer un mandat. Donc, on essaie d'envoyer, par exemple, 80 euros par mois aux personnes qui se font arrêter. Il faut voir que c'est peu de choses. Mais c'est un geste de base autour de ce truc débile de l'argent, mais qui permet de, je sais pas, de se tenir un peu plus dignement dans la situation en cours. Et voilà le type de soutien qu'on essaie de faire. Donc des fois, on a juste le nom de quelqu'un, on n'a pas les numéros d'écrou, les avocats ne veulent pas toujours balancer les numéros d'écrou, les familles sont des fois un petit peu réticentes, mais parfois ça prend. Et voilà, une fois qu'on a le numéro d'écrou, bah, il suffit d'écrire et d'envoyer un mandat postal et d'envoyer un petit peu d'argent. Et voilà. Et sinon, il y a eu aussi à Lyon des ateliers d'écriture qui ont été montés suite au mouvement d'octobre, vu qu'il y a eu une dizaine de personnes au minimum incarcérés, sans compter les mineurs, qui sont à l'EPM de mes yeux, sur lequel on a très peu d'informations, entre parenthèses. Et du coup, il y a eu des ateliers d'écriture qui avaient lieu tous les mercredis à la librairie La Griffe. Et donc voilà, des gens qui, comme ils étaient ensemble dans la manif, ne connaissent pas forcément les personnes qui se sont fait arrêter, mais essaient de garder cette dimension d'être ensemble. Et voilà, passer un petit peu de temps à écrire, on reçoit des réponses, et voilà.
Aussi, tu nous parlais tout à l'heure en antenne d'un autre aspect que moi je trouve important, par exemple, c'est d'accompagner les gens qui vont au parloir, par exemple. Enfin, un tas de petites choses qu'on peut faire collectivement pour soutenir un peu les gens.
Ouais, ça c'est quelque chose qui nous semble important aussi, encore une fois, sur des détails très concrets. Quand quelqu'un se fait arrêter et est incarcéré, souvent la famille est un peu perdue, un peu dépassée déjà sur les papiers qu'il faut réunir, simplement remplir les dossiers d'aide juridictionnelle pour pas se faire avoir par des avocats, ramener des garanties de représentation, ça veut dire des papiers qui disent que quelqu'un était en train de faire une formation, était en train de passer son permis à la mission locale, etc. Donc ça, on essaie de faire ça avec les familles, de se bouger, d'aller chercher à droite à gauche les papiers pour se présenter le mieux possible à la comparution immédiate. Et quand par malheur, et c'est souvent le cas, notamment après la cour d'appel à Lyon, vu qu'il y a eu appel systématique sur les personnes qui ont été arrêtées en octobre, une trentaine de personnes, quand ces personnes n'ont pas été condamnées à la prison ferme, il y a eu un appel systématique du parquet. Et la cour d'appel à Lyon est vraiment terrible, quoi. On perd systématiquement en cour d'appel à Lyon, surtout contre la police. Donc voilà, et quand il y a des peines de prison ferme, bah c'est encore une fois des familles qui ne sont pas préparées, mais heureusement, vu qu'il y a un fort taux de délinquance dans les familles des émeutiers qui sont descendus dans le centre-ville de Lyon en octobre, il y a des gens qui sont préparés, mais il y en a aussi encore qui sont perdus avec le système carcéral. Et du coup, bah, il faut aider à, par exemple, commencer déjà par aider les familles à ramener du linge pour les personnes qui sont à l'intérieur. On sait que le linge, c'est vachement important pour un détenu, surtout qu'il y a des gens très jeunes, des gens qui ont 18 ans, qui se retrouvent avec 3 mois fermes d'un coup comme ça. Ils sortent en manif ou alors ils sortent en centre-ville, ils se retrouvent enfermés pour 3 mois. Donc expliquer aux proches qu'on peut aller à la prison même si on n'a pas encore de parloir, qu'on peut commencer à déposer du linge, que c'est important pour le détenu, etc. Faire les demandes de parloir. Et après, concrètement, ça peut être accompagner des familles au parloir, parce que les prisons, elles sont de plus en plus loin des villes, des centres-villes. Et quand vous êtes à Lyon, selon le quartier où vous êtes, par exemple à la Duchère, Corba, c'est pas à côté, ça demande de prendre plein de bus, etc. Des situations hyper stressantes parce qu'on n'a pas l'habitude d'aller dans ces coins-là. Saint-Quentin-Falavier, c'est loin, Villefranche, c'est loin, Roanne aussi. Et du coup, bah, la Caisse de solidarité propose, quand la rencontre se passe bien, qu'il y ait une relation de confiance avec la famille, d'accompagner les familles, pour les premières fois en tout cas, au parloir, à la prison, et de faire comme un petit covoiturage, quoi. Et ça permet, par exemple, aux familles de sortir de l'espèce de honte qu'il y a autour de ça, parce qu'en général, elles vont seules au parloir, elles rentrent seules, elles sont enfermées dans une solitude, et là, c'est encore une fois la stratégie du pouvoir, quoi, d'isoler, de séparer, et y aller ensemble, c'est beaucoup plus facile à vivre, ça enlève concrètement tout un stress autour de comment y aller, est-ce qu'on sera à l'heure, etc., comment enlever le stress du transport, et puis effectivement, ça aide les familles à décharger une certaine pression qu'il peut y avoir, de ne pas être seul dans son bus quand on sort d'un parloir complètement en pleurs, mais d'être plutôt dans une voiture avec quelques personnes qui peuvent essayer de modestement vous consoler, et voilà, et pareil pour les bons moments, voilà le type de gestes qu'on peut essayer de faire autour de la tôle.
Moi, bon, après, ce que je trouve pas mal aussi dans ce que vous proposez, c'est de pas tomber dans le truc. On est trois professionnels qui allons tendre la main à des pauvres victimes de la répression. Mais c'est aussi d'essayer de montrer que tout le monde peut le faire, en fait. Que tout le monde peut organiser ce genre de soutien, de solidarité, que ce soit sous le nom de la Caisse de solidarité ou pas. Et je trouve ça vraiment important, en fait. Toutes ces petites choses qu'on n'est pas obligé de faire tout seul et qu'on peut se mettre à plusieurs pour faire.
Ouais, bah ça part déjà du principe que se retrouver pris dans la machine police, justice, prison, déjà ça, tout le monde peut le faire. Et être détenu, tout le monde peut le faire au sens de ça peut tomber, ça peut arriver vite, quoi. Quand on a certaines vies, certaines façons de vivre, certains ressentis, certains rapports au monde, bah, on sent que ça peut arriver vite et que des fois, la balle de flashball, elle passe pas loin, quoi. On en sent le souffle. Et du coup, c'est pour ça que c'est pas que un truc de militant, quoi. C'est un truc d'auto-organisation. Et c'est ce qui fait que ça marche sur Lyon et que, par exemple, dans les soirées de soutien, il y a beaucoup de monde. C'est que les gens, ils viennent et ils donnent des sous en sachant très bien qu'ils les donnent pas à quelque chose qui est extérieur à eux. C'est que c'est aussi des gens qui viennent dans les manifs et qui voient très bien que s'ils remuent un peu trop dans les manifs ou même s'ils sont juste là, ils sont en danger. Et que s'ils participent à la Caisse de solidarité, c'est parce qu'ils veulent eux aussi. C'est une façon de s'assurer un peu un atterrissage en cas de coup dur, quoi. Et c'est ça qui est assez positif.
Mais du coup, là, paradoxalement, ça reste dans un milieu militant.
Relativement, ouais. C'est ça un peu le paradoxe de la caisse, pour l'instant en tout cas. C'est que, à la fois, un des points de départ, c'était que, à la différence des autres collectifs de soutien politique, la Caisse de solidarité à Lyon a toujours défendu l'idée que on ne défendrait pas ou on ne se soutiendrait pas qu'avec des gens politisés. Et que, au contraire, il y avait beaucoup à partager avec des gens qui sont pris dans des petites histoires de violence, rébellion, outrage avec la police, même si elles sont pas étiquetées anarchistes ou je ne sais quoi. Mais après, dans les gens qui assurent le fonctionnement de la caisse et qui viennent remplir un peu la caisse dans les soirées de soutien, c'est vrai que c'est plutôt des gens politisés, que ce soit de la gauche un peu plus respectueuse ou des gens un peu plus des milieux associatifs ou libertaires lyonnais. Mais bon, ça nous semble intéressant d'assurer cette circulation quand même entre des profs de gauche à l'ENS à qui on va expliquer un peu la réalité carcérale, qui vont pouvoir donner un peu d'argent et que cet argent serve à un mec qui est tombé dans un quartier pour violence sur un agent, pour un coup de boule mis à un flic. Ça nous semble intéressant d'opérer ce déplacement, ces connexions.
Mais sauf que, où je suis pas forcément d'accord avec toi, c'est tu dis, il y a le truc quartier, il n'y a pas que dans les quartiers où il se passe des trucs.
C'est sûr.
Enfin, tu vois, peut-être que chez les profs de l'ENS, il y a peut-être un truc diffus sur une espèce de fantasme quartier et compagnie. Sauf que le type qui conduit, qui se fait serrer 15 fois sans ceinture, il va aussi sans ceinture.
Il va aussi tomber. Ouais.
Il va aussi tomber quoi. Et là, comment, enfin, tu vois.
Bah, pour l'instant, on a rencontré assez peu ce type de personnes parce que peut-être ils ont moins le réflexe de, je sais pas, de se poser. Et nous aussi, peut-être. Mais c'est vrai qu'on a croisé assez peu ce type de trajectoire. Ce qu'on croise, c'est ou bien des gens qui se font sauter sur des mouvements politiques, ou bien des gens qui se font défoncer par des flics, que ce soit en ville, autour d'un bar, etc. Ou bien, plus particulièrement, des gens qui sont sur des trucs dans les quartiers, quoi.
C'est que c'est moins évident aussi d'aller à la rencontre de ces gens-là, quoi, parce que tu peux pas aider tout le monde. Voilà, c'est... Il y a un tri de fait qui se fait par rapport à ça.
Ouais, et comment, je voulais savoir comment vous collectez de l'argent, en fait.
Bah, on organise des soirées de soutien assez régulièrement, ou bien dans des squats, ou bien dans des bars associatifs. Par exemple, il y a aussi des bars qui nous donnent leurs recettes certains soirs. Par exemple, le bar de l'autre côté du pont, qui, en échange d'un petit coup de main, bah, nous donne sa recette. Il y a des gens qui nous ont, par exemple, offert des fûts de bière, offert plein de choses pour pouvoir organiser des soirées. Parce que ce qui s'est passé à Lyon, par exemple, en octobre, c'est bah, tout le monde s'est rendu compte qu'il y avait eu un gros problème, quoi. Qu'il s'était passé quelque chose d'important. Et du coup, ça a plein de petites initiatives à droite à gauche, une projection, un repas. Et 400 euros par 400 euros, on finit par remplir une caisse et voilà, quoi.
Et pour revenir un peu à ce qu'on disait juste avant, en fait, ça me rappelle une fois un pote qui s'était fait, donc qui avait été condamné à une grosse amende pour, si je me souviens bien, c'était une embrouille avec un gros bourge. Et ils se sont battus, et sauf que bah, le bourge devant la justice, il a gagné, et le petit punk, et bah, il a eu une grosse amende, il a été condamné à une grosse amende. Et lui, il disait qu'il allait contacter la caisse de solidarité de Lyon pour demander du soutien. Et bon, je sais pas s'il l'a fait, mais c'était pour l'exemple, pour savoir, est-ce que vous lui auriez répondu, ben ouais, on va te soutenir, on va bosser ensemble.
C'est quoi les critères de sélection, quoi?
Bah déjà, il faut savoir qu'en France, on n'a pas le droit d'aider quelqu'un à payer ses amendes. Mmh. Donc la caisse respecte la loi et ne fait jamais ça, évidemment. Parce que voilà, la justice part du principe que, comme toujours, la personne est coupable à elle seule, c'est un individu, et à lui seul, il doit rembourser sa dette, et s'il bénéficie d'un soutien, il n'a pas payé sa dette. Mais bah, sinon, après, il n'y a pas vraiment de critères. Déjà, on a toujours exclu le critère de la culpabilité, le fait d'être coupable ou innocent. Ça, évidemment, ça ne rentre pas en ligne de compte. On ne peut pas reprendre ces catégories-là. On voit que ça ne marche pas. Ensuite, ça se joue surtout autour de la rencontre. Est-ce que, bon, par principe, quand il y a un mouvement ou quand quelqu'un vient nous demander, si on a de l'argent de côté, on se voit assez mal dire « bah non, lui, on se rencontre pas trop », etc. Donc on va toujours faire un geste minimum d'aider à payer les frais d'avocat ou d'envoyer un mandat, etc. Après, ça se maintient dans le temps s'il y a un échange, s'il y a quelque chose qui nous renforce les uns les autres, parce qu'encore une fois, on n'est pas dans l'humanitaire. Et on n'est pas en train de... Parce que sinon, c'est vider l'océan avec une cuillère à café, quoi. Si tout le monde se met à envoyer des mandats comme ça, bah, l'administration pénitentiaire pourra encore augmenter ses tarots. Et ça nous fait déjà assez mal de savoir que les trois quarts de l'argent qu'on sort, il va ou à l'administration pénitentiaire, ou à des flics, ou à des avocats. Mmh. Voilà, donc ça se maintient autour des échanges. S'il y a des gens avec qui, bah, qui disent bah, « moi, je veux bien vous aider à organiser un repas, à organiser une soirée de soutien, etc. Bah, », on fait des choses ensemble. Et souvent, une bonne partie, au moins la moitié des gens de la caisse, ont eu affaire elles-mêmes à la répression. Se sont tapés des grosses gardes à vue, des bracelets électroniques, et, voire des petites peines de prison.
Mmh. Et on parlait tout à l'heure, hors antenne, justement, où vous faisiez aussi des trucs sur un peu la sortie de prison, enfin, essayer de... accompagner les gens aussi à ce moment-là. Enfin...
Ouais, c'est un petit peu comme en comparution immédiate, pour éviter que les gens prennent une peine avec mandat de dépôt, ça veut dire avec prison immédiate, il faut des garanties de représentation. Bah, pour que quelqu'un puisse bénéficier de la semi-liberté, il faut avoir des trucs qui disent que la personne s'est correctement inscrite, par exemple, à l'université, pour être étudiant, ou fait des démarches auprès d'un employeur pour obtenir un travail. Et comme les personnes sont à l'intérieur, des fois, les familles n'assurent pas trop tout ce travail-là de médiation, et que l'avocat, il ne va pas faire des heures sup non plus, bah, c'est un petit peu à nous, des fois, d'aller capter tel employeur pour qu'il fasse bien la promesse d'embauche ou le certificat de travail pour tel moment, parce que c'est à tel moment que la personne va passer. On fait un petit peu ce travail-là, et voilà, quoi. Après, il y a des gens qui peuvent aller à la semi-liberté à Lyon, vu que comme les prisons sont pleines, ils en basculent une partie en semi-liberté, et après, il y en a une partie qui peut bénéficier du bracelet électronique. Et voilà quoi, c'est un peu ça la... le jeu.
Ouais, donc moi c'est ça que je trouve vraiment intéressant, c'est essayer de développer des solidarités pratiques sur un peu tous les fronts, sur tous les points sur lesquels des gens vont faire face à la tôle, la police, la justice, tout ça quoi.
Et à travers cette expérience, vraiment ce que je tiens à préciser, c'est qu'on développe toute une positivité quoi. C'est pas juste gérer la misère et gérer notre merde quoi. C'est vraiment un truc hyper riche parce qu'on rencontre des gens qui sont forts. On rencontre des gens qui ont des pratiques d'auto-organisation qui sont fortes. Il y a d'autres gens que nous, par exemple, qui cotisent pour quand ils ont un pote qui est détenu et cotisent avec ces personnes, c'est bien. Il y a d'autres gens que nous qui savent se bouger pour des gens qui sont à l'intérieur avec différentes méthodes légales ou non. Et voilà quoi. Et de toute façon, il faut bien se rendre compte qu'aujourd'hui, dans notre époque, il se passera rien de politiquement important qui ne concernera pas les prisons. Et je pense que ce qui s'est passé dans le monde arabe, que ce soit en Tunisie, en Égypte ou en Libye, ça le montre, ça le prouve. En Tunisie, il y a eu une quinzaine de tribunaux qui ont été incendiés et les prisons ont été ouvertes et les gens se sont évadés. Ça fait partie du processus révolutionnaire que d'attaquer la prison. Et quand il y aura du bordel en France, évidemment, ça passera, et pas juste comme truc collatéral, par la prison. La prison sera un des foyers centrales du débordement politique, quoi.
Ce qui s'est pas passé, par exemple, en mai 68,
non.
Où ça a été complètement ignoré. Si je me permets, enfin, c'est pour rejoindre ce que tu
mais disais. Mais cette éternelle séparation, je pense qu'elle tiendra de moins en moins, parce que il y a tellement de gens, que ce soit pour la route ou pour un peu de stup, etc., qui passent par la machine prison, que ça crée un plan de résonance que l'État sous-estime, à mon avis. Et enfermer autant de monde et faire passer plein de gens par des petites peines, des 3 mois, des 6 mois, ça fait que voilà, on se comprend de mieux en mieux.
C'est ce que je voulais rajouter à ce que tu as dit tout à l'heure, c'est que non seulement la prison, si tu as certains modes de vie, etc., elle va te toucher de près, mais c'est de moins en moins vrai. C'est de plus en plus, c'est que tu aies n'importe quel mode de vie, la prison va te toucher, quoi. Enfin, peut potentiellement te toucher, que ça arrive pas que à ceux qui ont une vie marginale ou qui ont certaines idées, etc. Ça peut arriver à tout le monde. Deux défauts de permis, hop, c'est parti, quoi.
Oui, enfin, il y a même eu le petit vieux à Paris qui a fini en tôle pour 3, 4, 5 retraits. Enfin, il a eu un problème avec sa ceinture de sécurité. Il ne pouvait pas la mettre, il était cardiaque. Il a fini en tôle, il s'est pendu 2 jours avant la sortie, quoi.
Ouais,
il avait 65 ans, le daron. Donc voilà. Donc toi, t'es optimiste en fait.
Non, je pense juste qu'il faut l'aide, quoi, parce que si justement un des trucs de la Caisse de solidarité de Lyon, c'est de puis comme on découvre toujours plein de choses, peut-être ça nous saoulera dans 5-6 ans, peut-être ou dans 10 ans, on sera beaucoup plus fatigué d'avoir balancé autant de mandats à l'intérieur. Mais pour l'instant, on y voit un champ de possibilités énorme, quoi. La prison, c'est quand même plein de rencontres, c'est plein de... et d'inattendu, quoi.
Et ce qui est intéressant, c'est que les gens s'en saisissent, quoi. Qu'ils soient pas juste là, en consommateurs, se servent de cet outil-là quand ça les concerne et se barrent. Enfin, c'est ça qui est aussi intéressant, quoi. C'est que...
Même s'il faut pas se leurrer, ça marche pas toujours.
Oui, bien sûr.
Il y a des fois des rencontres qui sont dures à maintenir dans le temps, des gens qui nous disent « bon, bah, c'était cool, ciao ».
Mais utilitariste de la chose, quoi.
Voilà, ouais, c'est sûr.
Et individualiste.
Et si on veut vous rencontrer ou vous contacter, alors comment on fait ?
Eh ben, il y a un mail qui est caissedesolidarité@riseup.net. Ensuite, il y a
Rise up, comment tu l'écris ?
Comme en anglais, alors riseup.net. Et donc ensuite, il y a des permanences qui ont lieu pour des gens qui peuvent avoir des embrouilles avec la police, qui veulent nous rencontrer en vrai. Donc c'est les premiers et troisièmes jeudis de chaque mois à 19h à la Lutine. Ça se trouve au 91 rue Montesquieu à Lyon, dans le 7e. Et voilà, sinon il y a un numéro de portable. C'est, alors de mémoire, le numéro c'est 06 43 08 50 32. Donc voilà, vous pouvez appeler sur ce numéro et voilà.
Et une adresse postale, vous en avez une ou pas ?
Ouais, c'est l'adresse de la Lutine, donc okay. Caisse de solidarité à la Lutine, 91 rue Montesquieu, Lyon, 69 007.
Ok, cool.
Ok, alors est-ce que tu as quelque chose à rajouter ?
Non, voilà, je vous remercie de nous avoir invités.
Bah, merci à toi d'être venu.
Ouais, en espérant que voilà, les liens entre toutes ces initiatives, ils vont se renforcer. Et qu'on se fait passer les infos et les coups de main, quoi.
Ouais, tout à fait. Bon, un peu de musique.
Ouais, allez.
Ouais.
Ouais, voilà, donc vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Papillon sur Radio Dio. La chanson qu'on vient d'écouter, c'était un morceau d'un groupe qui s'appelle Camera Silence. Le morceau s'appelait Camera Silence. Ça parle des cellules d'isolement en prison. Donc voilà, le morceau, c'était du street punk un peu bourrin, mais aussi bourrin que ce dont ça parle, quoi. Donc voilà pourquoi on va passer. On enchaîne donc avec quelqu'un qui vient de, enfin qui est en quartier d'isolement d'ailleurs.
Voilà. Alors, on va parler justement des lettres qui ont été reçues par le journal L'Envolée à Paris d'un détenu qui s'appelle Omar Topelhadj, qui est au QI quartier d'isolement de Bois d'Arcy. Alors Omar, c'est un détenu qui s'est évadé en février 2009 de la prison de la centrale de Moulins-Yzeure avec Christophe Kider. Donc voilà, on avait reçu Catherine Charles, la mère de Christophe, on l'avait reçu ici, qui a fondé après une association qui s'appelle l'ARPI, voilà, pour le respect des proches de personnes incarcérées. Donc ce détenu, il a écrit plusieurs lettres qui parlent de qu'est-ce qu'on peut faire à l'intérieur, à l'extérieur. Donc voilà, donc on va vous lire ces trois lettres et on va commencer par la première.
Ouais, donc celle-là aussi, il parle aussi, il critique un petit peu le contenu des émissions sur la prison. Donc il a écrit au QI de Bois d'Arcy le 8 novembre 2010, donc c'est titré « Abolition des prisons ». Il n'y a vraiment pas beaucoup de lettres de détenus dans l'ensemble des émissions anticarcérales. C'est dû au fait que les prisonniers ne connaissent pas l'existence de ces émissions. Je crois que l'émission la plus connue est celle de Radio Notre-Dame, avec les catholiques qui passent des messages. Il y a aussi le problème de l'émission des ondes qui est limitée à la région parisienne, avec une mauvaise qualité sonore. Étant donné qu'une antenne coûterait environ 100 000 euros, on peut en financer une en créant un syndicat des prisonniers et des familles de prisonniers. L'avocat de Rouen, qui fait des procès à l'État, peut se charger de monter l'association 1901. On peut baser l'émission à Radio Libertaire éventuellement. En tout cas, il faut une diffusion quotidienne d'une émission sur les prisons qui soit assurée par les différents bénévoles qui animent des émissions sur le placard dans toute la France. En n'utilisant qu'une fréquence, la publicité sera plus simple et il faut tous les soirs le même horaire de 19h à 20h. C'est parfait, ou sinon de 20h à 21h. Tous ceux qui sont en centrale ne peuvent pas écouter votre émission. Il faut permettre aux familles de passer des messages à chaque émission, au moins 15 minutes, car la seule chose qui intéresse les prisonniers, c'est de savoir comment vont leurs familles et de les entendre, de voir qu'ils sont soutenus par leurs proches. Par contre, évitez les hors-sujets. Dès que vous parlez des manifestations pour les retraites, nous on s'en fout. On ne fait pas partie de la société française et on n'est pas des trimards non plus. Gardez la ligne sur le sujet de la prison, ne vous en écartez pas, car si c'est pour entendre parler d'autre chose, on préfère zapper l'émission et retourner à nos activités. Il y a aussi un problème avec vos plages musicales. Tout le monde a des goûts musicaux différents et on a tous nos CD. On n'écoute pas vos émissions pour nous divertir. À chaque fois que vous mettez du son, nous à l'isolement, on est 8 à écouter, on coupe le son et on va parler à la porte en attendant que vous arrêtiez votre boucan. Prenez ça dans la gueule. Sachez qu'on écoute juste pour entendre parler des prisons, entendre des témoignages de prisonniers et prisonnières et de familles. Les autres, on s'en fout. C'est tous des jurés, qu'ils aillent au diable. Je propose que Laurent Jacquat dirige le syndicat des prisonniers. Il a la rage. Il faut faire une cotisation de 10 € pour les familles et les prisonniers. On pourra proposer des aides juridiques, des aides au transport pour les parloirs, l'envoi de mandats aux indigents et aux malades, vu qu'il n'y a pas d'arrêt maladie en prison, des colis de bouffe et des vêtements. A plus les potos, El Hadj Omar Top.
Bon, alors ensuite, il y a une autre lettre du 11 novembre, toujours de Omar, et qui pose le débat, la réflexion. Hein. Alors, depuis le QI de Bois d'Arcy, c'est opérationnel. Jacques Le Sage de La Haye a déjà créé il y a un moment le syndicat des prisonniers et des familles de prisonniers. On va regrouper toutes les émissions de radio, les sites internet, les journaux et les associations ARPI, OIP, Banque Publique dans le syndicat des prisonniers et des familles de prisonniers. Il faut que tout le monde cotise. On va s'organiser pour avoir un journal quotidien gratuit grâce à la pub et une émission de radio nationale quotidienne. La seule façon de faire tomber les murs des prisons est l'information pour préparer la lutte armée. On va regrouper toutes les publications dans un seul journal quotidien. L'objectif prioritaire est la création d'une émission de radio nationale quotidienne. Il faut acheter une antenne puissante avec les cotisations. Il faut que l'on puisse entendre tous les soirs une émission avec les différents animateurs radio sur les prisons dans chaque région. On va passer des messages des familles à la place des plages musicales. S'il y a des chanteurs qui veulent faire en direct des morceaux au sujet de la prison, à la rigueur c'est intéressant, s'ils ont une réflexion politique sur l'abolition de la prison. Il faut inviter des prisonniers fraîchement libérés et leur laisser la parole. Ne laissez pas parler plus de 5 minutes ceux qui parlent de réinsertion. Nique ta mère la réinsertion. Ceux qui parlent d'un sujet en lien direct avec la prison et qui ont été incarcérés eux-mêmes, donc pas d'imposteur. Laissez-leur la parole 10 minutes. Qu'ils ne nous saoulent pas une demi-heure. Avec 10 minutes d'information sur les prisons, sans sujet sur les manifs, les sans-papiers et toutes les conneries de Trimard, ça sera OP. Bon, à débattre. Hein. Ensuite, débattez pour trouver des solutions pour abolir la prison et le code pénal. Expliquez toutes les actions qui vont dans ce sens. Il faut arrêter avec votre pitié à vouloir du confort à notre place. On ne veut pas crever dans un palace. On veut la liberté, pas la télé ni du shit, ça sert à rien d'essayer de nous endormir. La question, c'est de savoir quand tous les anciens détenus vont prendre les armes pour attaquer la paix et le ministère de la Justice et cramer prisons et tribunaux. Si dehors vous n'alimentez pas la révolution, cela sert à rien de militer. On n'a pas besoin de compassion, il faut de l'action. Donc, organisez les luttes, arrêtez de négocier et de repousser l'échéance. Il y a une lutte à mort, soit vous êtes spectateur du combat, soit acteur. À vous tous auditeurs de savoir, ce que vous allez faire.
Voilà, donc après il y a une troisième lettre du 15 novembre, donc quelques jours après. En ce qui concerne le syndicat des prisonniers, étant donné que Jacques Le Sage de La Haye l'a créé, participez-y à part entière. Il ne doit pas y avoir de dissension, il n'y a pas de chef, c'est une association libre. Chacun fait de son possible pour informer sur la prison, créer des passerelles entre l'intérieur et l'extérieur pour abolir les prisons. Donc ce n'est pas un objectif, mais un projet de lutte contre la paix et le ministère de la Justice jusqu'à la fermeture complète de toutes les prisons. Toutes les initiatives qui iront dans ce sens seront positives. Tous ceux qui voudront se joindre à ce projet seront les bienvenus. D'ailleurs, il faut regrouper l'ensemble des associations et des émissions de radio sur la prison sous cette bannière pour faire front et déclarer la guerre à la prison. Cette institution barbare d'un autre temps. Au niveau des prisons, il y a beaucoup de prisonniers qui sont solidaires pour détruire les prisons. Cependant, dès que des groupes se forment, ils sont brisés à coups de transfert ou d'isolement. La paix a de nombreuses méthodes de contrôle. Ce qu'il faut faire, ce qu'il faut, c'est un suivi de ces luttes afin de leur donner un sens et un relais sur les ondes dans toute la France. En ce qui concerne l'antenne radio, une fois qu'il y aura de l'argent pour l'acheter, on va émettre, autorisation ou pas, de façon clandestine s'il n'y a pas d'autorisation. Comme cela, tout le monde dira ce qu'il voudra sans crainte. En tout cas, cela ne posera pas un problème à partir du moment où il y a une centaine de milliers d'auditeurs potentiels. C'est pareil pour un journal. Avec la pub, on va se débrouiller. À l'époque, un syndicat de détenus avait été créé et dissous, car c'est les prisonniers qui le géraient. On ne va pas refaire la même erreur. On vous fait confiance à l'extérieur. Votre engagement bénévole parle pour vous. De toute façon, pour la plupart, vous êtes d'anciens prisonniers et vous serez rejoints par d'autres prisonniers libérés. J'ai navigué dans pas mal de régions de France au placard et l'erreur qui est commise par l'ensemble des associations et des radios est qu'elles ne sont pas visibles à l'intérieur des prisons, mis à part peut-être l'OIP qui laisse des bouquins en bibliothèque. Mais très peu de prisonniers écrivent à l'OIP parce que là-bas, à part Laurent Jacquat et Gabi Mouesca, donc je crois que Laurent Jacquat fait pas partie de l'OIP, mais bon, c'était une parenthèse, ils ne font qu'observer mais ils ne font rien d'autre. Ils ne soutiennent pas les détenus concrètement, ne font aucune mobilisation. Vous avez beaucoup moins de moyens avec votre équipe, mais par exemple, j'ai vu que pour Kautar, vous avez bougé au bon moment, et pas 6 mois après pour publier un livre d'observateur inutile, mais sans doute rentable. Donc ce qui compte, c'est de se connecter avec l'ensemble des associations favorables à l'abolition de la prison, pour pouvoir lutter avec les détenus, les familles, les anciens prisonniers, tous ceux que la prison détruit. En tout cas, il faut que ce syndicat soit légitime, donc rejoint par un nombre significatif de prisonniers et de leurs familles. C'est pour cela qu'en adhérant, ils doivent bénéficier d'un soutien réel. Vous avez très bien fait de mentionner les prisonniers basques, qui sont très bien organisés avec leur journal, la radio, les mandats, bien qu'ils ne soient pas dans leur pays. Donc il n'y a pas de raison que l'on ne parvienne pas à s'organiser nous aussi. Il y a plein de prisonniers qui tiennent la route, ne vous en faites pas. Ceux qui ne se laissent pas faire par l'État restent les mêmes en prison. Il manque juste le relais de solidarité à l'extérieur au niveau national. De toute façon, à partir du moment où il y a un projet de lutte, cela va fédérer du monde qui en a assez des prisons. La peine de mort est abolie en France, ça fait un bail. On ne prend aucun risque à se déclarer contre la peine de mort. Elle n'existe plus comme telle dans ce bled. Maintenant, on te laisse crever à petit feu en prison jusqu'à ce que mort s'en suive. C'est mon cas, celui de Christophe et tant d'autres. Le risque, c'est de se déclarer pour l'abolition des prisons en 2010. C'est le combat qu'il faut mener. Cela mérite des réflexions afin de trouver des moyens pour agir ici et maintenant, pas dans 30 ans quand on n'en aura plus la force. Cela passe par l'information et l'éveil d'une conscience collective pour lutter contre le système carcéral, cette industrie de mort, cette traite d'êtres humains. Ce n'est pas sur le terrain du droit qu'il faut se battre, c'est sur le terre-terre. Les libertés s'arrachent par la force, elles ne se concèdent pas. Donc alimentons la révolution prochaine. Bientôt, ce n'est pas les voitures qui vont cramer, c'est les prisons et il n'y a rien de plus beau qu'une prison qui brûle. Omar Topelage. Donc voilà, donc lui se définit comme prisonnier de guerre, hein, ça se voit dans son... C'est vraiment, il l'écrit, Omar, prisonnier de guerre, il a tout tenté, l'évasion, il s'est fait serrer 2 jours après, il est à l'isolement. Donc voilà, faut bien remettre, avoir ça en tête quand on lit ses lettres. Hein. C'est pas n'importe qui l'écrit, quoi. C'est pas n'importe quel détenu. Quoi.
Voilà, en tout cas, ces lettres, elles nous ont... Donc pour rappeler, c'est des lettres qu'il avait envoyées à l'émission de radio L'Envolée à Paris. Ces lettres, elles nous ont vachement secouées, c'est pour ça qu'on les a lues, on n'a pas trop le temps de les commenter. Et puis peut-être qu'on n'a pas à les commenter, mais voilà. Elle pose le débat. Si vous, ça vous donne envie de réagir, n'hésitez pas. Comme ça, j'en profite pour donner notre adresse. Et si vous avez envie de réagir à quoi que ce soit, demander des infos, du soutien, partager des témoignages, n'hésitez pas à nous écrire. Donc, c'est l'émission de Radio Papillon chez Radio Dio, 14 bis rue de Roubaix, boîte postale 51. 42002 Saint-Étienne Cedex 1. On a une adresse email aussi pour ceux qui peuvent. C'est émission papillon tout attaché et sans accent @riseup.net, donc riseup.net. Et voilà, donc bref, on en reparlera tout ça parce que tout ce qu'il dit Omar, il y a des trucs avec lesquels on n'est pas d'accord, il y a des trucs qui nous touchent beaucoup. Et c'est l'ouverture d'un débat comme disait Soso.
Et puis surtout, c'est en lien avec tout ce dont on a parlé aujourd'hui, en fait.
Ouais, carrément.
Donc, il y a des choses qui dit que vous faites, par exemple, déjà, quoi.
La solidarité, ouais.
Voilà, exactement. Y a, donc, ça pose plein de questions là-dessus.
Et aussi, ouais, si vous envoyez des réactions, nous, on essaiera de voir s'il est possible de lui retransmettre à lui ou de les retransmettre à l'envolée. Hein. Enfin, on fera tourner, quoi. Il faut que ça tourne, tout ça.
Absolument.
L'agenda ?
Ouais, l'agenda. On va juste dire une chose vite fait, vu qu'on est à la bourre. Le 25 mars, au Remue Méninges, rue Désiré-Claude à Saint-Étienne, il y aura une soirée sur les UHSA. c'est les hôpitaux-prisons tout nouveau, quoi. Voilà. Et si vous voulez en savoir plus, eh ben, cette soirée, elle sera mieux présentée le jeudi 17 mars dans le cadre de l'émission numéro 0 sur cette même antenne, sur Radio Dio 89.5 FM, à midi et à 17h.
Il sera possible de trouver les infos sur le, numéro, sur le site internet du numéro 0, je suppose.
Voilà, tout à fait.
L'autre truc, c'est Résistons ensemble.
Oui, bon, bah, on dit super vite fait, 19 mars, journée nationale contre les brutalités policières. On ne sait pas trop ce qui va être fait, mais c'est le réseau Résistons ensemble, je crois, qui appelle à des actions un peu partout.
On a le droit à un message,
Oui. Ouais,
ouais. Bon, juste, voilà, écrivez-nous parce que l'émission, elle a du sens que si, uniquement si vous nous écrivez, nous, nous voilà, on se fait les relais, hein, c'est ce qu'on peut déjà être et c'est déjà pas mal de pouvoir laisser la parole, l'antenne, la place aux prisonniers. Et ce que je voulais dire, bah, c'est un message pour Nabil. Donc, moi aussi, ça me fait bien chier de ne pas pouvoir venir au parloir ces derniers temps. Donc, vivement que le temps passe et qu'on soit au prochain parloir. Et puis, bah, je te fais de gros bisous. Et prends soin de toi. T'as intérêt.
Et voilà, et moi, je voulais aussi...
Ah oui, attends, juste, et il y a Jimmy qui te saluait très, très chaleureusement, voilà. Et s'il nous écoute, bah, salut Jimmy.
Ouais, salut Jimmy, si tu nous écoutes. Antoine aussi, de là où t'es, peut-être tu nous écoutes. Et bah, si t'as envie, ce serait cool qu'un de ces quatre, quand tu seras enfin sorti, tu puisses venir nous raconter des choses. Et puis, bien sûr, pareil, une grande bise à Nabil. Et un grand bonjour à son copilote. Voilà.
Je vais être super original. Salut à Nabil. Et puis voilà, salut à tous les autres.
Ouais, tous les autres aussi. Bon courage.
Et puis bah, à la prochaine, quoi.
Ouais, voilà. Donc cette émission sera rediffusée ce jeudi midi, le 10 mars, sur Radio Dio. Et le mardi 15 mars, sur les ondes de Radio Canu à Lyon, 102.2 FM, à 20h.
Et merci à Nico d'être venu aussi.
Ouais, ouais, merci beaucoup.
Merci à David.
Ouais, merci à David.
Et on se retrouve le premier dimanche d'avril à 17h30.
Dans un mois. Allez, ciao à tous.
Dans une putain de cellule au premier étage. Sirène gueule et quelques poussins un cri. Y'a du partout dans la tôle. Y'a du baston dans la tôle. Y'a du baston dans la tôle. Café les mecs, ça va saigner. Pas de son commencer.